Chapitre 8. Nouvelle étape. Non, non, s'écriait Thérèse dans la solitude de sa petite chambre. Non, je ne passerai pas le reste de ma vie à être malheureuse. L'ombre d'un mauvais rêve ne me hantera plus. Je déchire toute la page où le rêve est inscrit, c'est fini, personne ne la connaît, et moi je l'oublie. La conscience un peu artificielle que nous élabore notre éducation puritaine avait souffert d'abord des dissimulations nécessaires à l'égard de la famille. Mais une goutte de raisonnement s'étendit sur la place meurtrie comme l'huile adoucissante d'un liniment anglais. L'Angleterre est le pays des liniments et du bon sens. Thérèse, sincèrement, finit par reconnaître au-dedans d'elle-même et vis-à-vis du miroir intérieur qu'elle avait eu mille fois raison de ne pas affliger les tendres cœurs qu'il aimait par la révélation d'une catastrophe à laquelle nulle sollicitude ne pouvait trouver remède. Quel trouble, quelle indignation, et aussi quel vain reproche sa confession aurait déchaîné. Tu devais demander conseil, tu devais écrire, attendre, réfléchir. Et alors, tout reprendre par le menu, expliquer le logis rose, les bizarres voisinages, le manque de leçons, la pénurie d'argent, les instances de pierre. Ah non, cela moins encore que le reste. Comment aurait-elle pu ouvrir cette cachette sacrée où dormaient ses souvenirs? Les réveiller, ces pauvres petits, honteux et blottis, les exposer au regard effarouché des chers siens qui jamais ne pourraient comprendre ni admettre? Après une crise de remords qu'apaisait un peu la raison, c'était avec une sorte de volupté que Thérèse se replongeait dans le silence comme dans un bain paisible et profond. D'autres regrets, à d'autres moments, la tenaillaient bizarrement. Elle se mettait à imaginer que sa seule faute, l'origine de tout le mal, avait été l'absence d'une bénédiction religieuse sur son mariage. Si elle avait exigé d'être mariée à l'église, tout aurait tourné autrement. Peut-être. Il y aurait du moins une église qu'on pourrait retrouver, une sacristie, un registre, un clergyman qui se souviendrait. Ce qu'elle regrettait avec amertume, c'était les témoins et les preuves, ce n'était pas la bénédiction. Plus tard, beaucoup plus tard, une vie intérieure naissante en elle lui révélait la faiblesse de son ressort moral à cette époque et la totale absence de tout besoin plus élevé que celui de sécurité et de tendresse. La sécurité surtout et l'appui, elle les avait saisis hâtivement, sans prudence, sans prière, cramponnés à la branche qui s'offrait. Branche pourrie et rompue au premier coup d'une rafale venue on ne sait d'où. Pour céder à l'oubli et pour retrouver la joie de vivre, Thérèse résolut de faire exactement ce qu'on faisait autour d'elle. Ses amis avaient des amis qui l'invitèrent, elle noua des relations tout en évitant les intimités. Elle eut un hiver amusant et varié et un joli printemps. 2 années seulement s'étaient écoulées depuis son aventure à Sevendial, est-ce croyable? La maison des miroirs, la pension Stephen, le logis rose, le cottage parmi les fleurs et les mélèzes du Gloucestershire, la désolation à Londres, et puis les pépiments des oisillons, le coup écrasant à la poste restante, et ensuite le vent et les vagues d'Eastbourne, où il aurait fait bon mourir, le Jura familier, rassurant, un petit triomphe sans écho, et cette basse Écosse où s'était dressé en elle un esprit ricaneur et méchant. En 2 ans, ce kaléidoscope où les scènes et les couleurs fondaient les unes dans les autres avec une vitesse vertigineuse. Pour finir, la chambre brune et jaune, austère, aux rideaux de serge sombre que Thérèse écartait pour voir en bas, dans un petit jardin, le cities aux grappes d'or et la marge étroite d'un gazon velouté. Un cercle de jeunes artistes lui avait révélé l'esthéticisme, cette furieuse passion de beauté archaïque que Ruskin et ses amis avaient déchaînée sur l'Angleterre et qui sembla, pendant quelques saisons, un ouragan de folie parmi les classes moyennes et les snobs. N'y comprenant rien pour commencer, Thérèse s'accoutuma à voir dans les salons des jarres jaunes et bleues, des gerbes de plumes de paon. Elle apprit que les porcelaines de Worcester, rouges et or, devaient être un objet d'exécration et que le thé n'était buvable que dans des tasses à décor bleu, si possible, avec le saule et la pagode. Ses amis se vêtaient de robes, soit à la grecque, bien incommode pour monter en omnibus, soit de style Greenaway, vaguement empire, corsage court, ceinture très remontée, longue jupe, petit volant. Les couleurs franches étaient proscrites, le vert n'était plus vert mais vert de gris, le rose de rose flétri, le bleu d'une nuance morbide de poison. Thérèse riait de cette toquade, mais un bel après-midi, elle faillit tomber à la renverse quand elle aperçut, dans Bond Street, où elle allait dire bonjour à Jeanne, l'apôtre même de la réforme du goût, Oscar Wilde, en costume de velours vert sauge, culotte courte, souliers à boucles, et tenant dressée contre son épaule la haute tige rigide d'un tournesol, ou de larges feuilles grimpées sur la hampe, jusqu'au disque immense et flamboyant de la fleur, symbolique amante du soleil. Un petit groupe s'arrêta sur le trottoir. Thérèse entendit qu'on chuchotait « Oscar Wilde, beau comme Apollon, dommage qu'il ait cette fêlure !» Quand elle rentra en son logis, ses amis lui envièrent sa chance. Elle-même n'avait jamais vu le célèbre esthète dont toutes les chroniques mondaines célébraient les excentricités. Peu à peu, Thérèse se faisait une petite éducation d'art de la période. Elle admira les tentures de Maurice, les toiles tissées dans les cottages et la peinture pré-raphaélite. Les tableaux de Dante Gabriel Rossetti, dont Thérèse vit l'exposition admirable, la transporta d'une émotion presque douloureuse, dont 6 mois plus tard, les vibrations la traversaient encore. Elle était arrivée à Londres 2 ans auparavant, avec une sensibilité endormie, protégée de plus par une carapace d'épaisse ignorance qui, maintenant craquée, se fendait et tombait par morceaux. Chaque semaine avait apporté une révélation humiliante souvent, parfois éblouissante comme un bel éclair. Sortant d'un concert où elle avait entendu Clara Schumann ou Joachim ou un autre magicien des sons, du théâtre que l'acteur Irving, bizarre et puissant, remplissait des fureurs d'Othello, comment Thérèse ne se serait-elle pas sentie pareille à une chrysalide qui commence à s'agiter, à s'entrouvrir, pour qu'apparaisse dans le soleil une créature plus parfaite, douée de sens nouveaux? La musique, la peinture, les foules, le flot mouvant et changeant qui s'écoulait dans les rues, les feuillages et les fleurs des parcs l'enivraient d'un plaisir capiteux et de surface, semblable à la mousse étincelante d'une coupe de champagne. Une gaieté animait ses gestes, jaillissait en petites lueurs dans sa conversation, sans pourtant descendre jamais jusqu'à la couche profonde où l'obstiné chagrin, qui ne bougeait plus, vivait encore. Être moins pauvre, ah, c'était aussi une libération. Avec les 400 francs par mois que depuis 6 mois lui valaient ses cathédrales, Thérèse payait sa vie confortable chez des Anglaises de bonne éducation. Elle s'accordait quelques dépenses de toilette et des excursions, et régulièrement, elle mettait un peu d'argent de côté, car parmi les choses qu'elle s'efforçait d'oublier, elle gardait au contraire, soigneusement, comme une brûlante leçon, le souvenir du dénuement qui, croyait-elle, avait été la première cause de son imprudence et de son malheur. Jeanne Black, cela va sans dire, encourageait Thérèse dans des pensées raisonnables et lui donnait sa propre prospérité comme exemple des récompenses promises et toujours accordées à un labeur intelligent. Pour être belle, salon, massage, parfum, jouissait d'une grande vogue. Jeanne attendait même le jour où la princesse de Galles la ferait mander pour l'assister dans une de ses célèbres, quoique secrètes, séances où la future reine d'Angleterre, Adelina Patti, et l'impératrice d'Autriche échangeaient des filtres d'éternelle jeunesse et d'inaltérable beauté. Ce jour, à vrai dire, ne vint point, mais Jeanne Black, tout doucement, faisait fortune. « Vous êtes mon associée pour 2 000 francs, disait-elle à Thérèse. C'est ce que les Anglais appellent un associé dormant. Mais quand vous aurez fini vos cathédrales, vous n'avez qu'un mot à dire pour être mon associé bien réveillé. Votre physique sera sympathique à mes clientes, vous verrez. » Ce que Thérèse vit, ce fut tout autre chose. Une lettre de ses éditeurs parisiens vint déranger brusquement la jolie et soyeuse habitude dont elle commençait à se faire un nouveau cocon, ayant assez volté d'ici et de là. Travailler le matin, se promener l'après-midi, visiter un musée, Cependant, elle ne rentra jamais dans la salle des porcelaines orientales de South Kensington. Le soir, aller au concert ou chez des amis, Thérèse se mouvait machinalement dans ses limites et ne faisait aucun projet d'avenir. Le coup de barre vint de Paris. « Nos relations par correspondance sont trop lentes », écrivaient ses éditeurs. Souvent, une petite correction, aller et retour, fait attendre l'imprimerie. D'ailleurs, vous avez fini les cathédrales anglaises et vous allez entreprendre la traduction des cathédrales françaises. Vous la ferez plus aisément à Paris, où vous aurez tous les documents sous la main. Vous vous installerez très facilement dans le voisinage de nos bureaux. Veuillez disposer de nous pour vous aplanir les petites difficultés qui pourraient surgir. La vie n'est pas plus chère à Paris qu'à Londres si l'on sait s'orienter. » Le cœur de Thérèse bondit tout à coup sous une poussée de joie qui la stupéfia. Mais oui, c'était bien cela qu'elle désirait sans le savoir. Quitter Londres, ne plus craindre sourdement, obscurément, chaque fois qu'elle sortait, de se rencontrer avec une Naïmol, avec une des bouilloires belges, avec Madame Stephen, avec Flore ou Maggie, personnes amicales ou hostiles, curieuses, questionneuses. Que de fois dans le parc, une silhouette entrevue de loin l'avait fait quitter l'allée et s'en aller à grands pas vers les grilles. Comment n'avait-elle pas songé plus tôt à l'évasion définitive ? Elle n'en avait pas aperçu la possibilité. Aujourd'hui, une voix s'ouvrait d'elle-même, parfaitement simple et sûre. « Mais courez-y donc !» s'exclama Jeanne Black. « Vivre à Paris ? Ah, je vous envie ! Moi, j'y vais dans quelques semaines pour apprendre les coiffures nouvelles. Je vous verrai dans votre installation. Et surtout, ma petite, c'est bien entendu, n'est-ce pas, Motus. Pas un mot à personne de... votre rêve. » Je vous souhaite toutes les bonnes chances et un charmant mari français. Parce qu'un français, dans l'intimité, c'est tout de même plus excitant qu'un anglais, j'en sais quelque chose. »